18h passées de 36 minutes. C'est le moment de votre rendez-vous de ce lundi matin. C'est ton parcours. Présenté par Myriam Benjenad et Nicolas Nadeau, c'est tous les derniers lundis du mois de 18h30 à 20h sur Espace FM. Et oui les amis, 18h passé de 37 minutes, on est lundi soir, c'est ton parcours ce soir avec Nicolas et Myriam. Mais bonsoir Nicolas.
Bonsoir, bonsoir Grégory, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Alors Myriam n'est pas là ce soir, bienvenue pour ce deuxième numéro de C'est ton parcours. Tout d'abord une très belle année 2023 à tous. Et tous les derniers lundis du mois, c'est vrai que 18h30 à 20h, on reçoit des personnalités pour revenir sur leur incroyable histoire, hein, de leur plus petite enfance à aujourd'hui. Exceptionnellement, celle prévue lundi dernier a lieu aujourd'hui. Comment étaient-ils enfants? Comment sont-ils passés de l'ombre à la lumière? Leurs plus belles rencontres et anecdotes de parcours? Que font-ils aujourd'hui aussi? Leurs actualités du moment, vous allez tout savoir. Et justement, en ce lendemain de fête, on a le plaisir de recevoir deux invités incroyables que j'aime beaucoup. Eh oui, la première est écrivaine, actrice, réalisatrice, productrice, une amoureuse, hein, de la langue française. Bonsoir Evelyne Dress.
Bonsoir Nicolas.
Et le second est chanteur, animateur radio, chef d'entreprise et auteur, hein, passé par The Voice. Vous avez pu aussi le voir dans Les Anges de la télé-réalité. Bonsoir Alban Bartoli.
Bonsoir Nicolas.
Et bienvenue à tous les deux. Alors c'est vrai qu'on va tout connaître, hein, de votre vie ce soir. Et on va tourner ensemble cette première page, hein, de ce livre consacré à l'histoire, hein, d'Evelyne Dress et d'Alban Bartoli. Et on commence par cette partie consacrée à leur enfance. Alors c'est vrai, Evelyne Dress, vous êtes née dans un train en gare de Lyon-Perrache, hein, sur le trajet des vacances en direction de Grenoble, hein, transportée à l'Hôtel Dieu. Les religieuses d'ailleurs ont dit à votre mère « Oh, le beau bébé que le bon Dieu vous a donné, madame !» Racontez-nous, ça c'est quand même plutôt drôle, c'est plutôt marrant.
Vous savez, j'y étais, mais je m'en souviens pas, hein, on me l'a raconté.
Pourtant c'était hier.
Alors oui, absolument. Mais en tout cas, il faut quand même que je vous précise que j'étais en dédicace à Dunkerque dans une librairie et il y a un monsieur qui rentre dans la librairie. Ah, je voulais vous rencontrer. Ah, je suis ravi, monsieur. Et bien, parce que j'ai entendu parler de vous dans la gare des Brotteaux à Lyon. Alors, je dis ah, très bien. Il dit oui, parce que là, la gare des Brotteaux est devenue un musée qu'on visite et le guide nous a dit qu'une comédienne du nom d'Evelyne Dress, et de citer votre filmographie, est née dans cette gare. Voilà, donc vous voyez, je suis devenue monument historique. En tout cas, ma mère devait accoucher, non pas moi encore, ma mère devait accoucher le 15 août, donc elle devait avoir le temps d'arriver à Grenoble où habitait sa mère et laquelle avait réservé une chambre dans un hôpital, etc. Et vu que mes parents n'étaient pas très riches et que mon papa n'avait pas les moyens de payer, de louer, je sais pas comment on dit, de réserver une place assise, ma mère était debout dans le train en troisième classe. Les trépidations du train ont fait que je suis arrivée plus tôt que prévu et donc arrivée le 1er août, du temps où tout le monde partait en congé payé le 1er août. Aujourd'hui, ça s'étale, mais à l'époque, c'est tout le monde en même temps le 1er août.
Ça vous a pas donné envie de travailler à la SNCF?
Non, pas du tout, mais ça m'a donné peut-être le goût des voyages et j'adore en tout cas le train, ça me repose, je me sens très tranquille dans le train.
Oh, c'est exceptionnel ça.
Et vous Alban, c'est vrai que vous étiez un enfant extraverti, hein. Celui qu'on voyait souvent, qu'on entendait souvent aussi,
oui.
Hein, d'ailleurs toujours, hein, avec le chant. Vous faisiez des spectacles à la maison, des spectacles à l'école, et d'ailleurs votre premier seul en scène, c'était au mariage de votre maman.
Oui, c'est vrai.
Vous avez chanté « Dieu m'a donné la foi » d'Ophélie Winter.
C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est un peu moins exceptionnel, moi je suis pas né dans un train ou dans un avion, mais oui, effectivement, première scène, c'était au mariage de ma mère, ouais.
Et alors comment ça s'est fait ça? C'était soudain en fait, quand vous étiez enfant, vous aviez envie de chanter et...
En fait, je donnais pas le choix aux gens. Même quand il y avait des invités à la maison, j'étais là et je leur disais, voilà, après le dessert, il y aura un spectacle. Je me préparais dans la chambre pendant 2 heures.
Mais quand même, être un petit garçon et aller au mariage de sa mère, c'est déjà cocasse quand même.
Oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Oui, elle a fait les choses un peu à l'envers, oui, c'est vrai.
Et
c'est
comment vrai. C'était à la maison, alors déjà à cet âge-là, on chantait devant toute la famille, le repas peut-être du dimanche où on profitait pour chanter aussi.
Alors ça, c'est vrai qu'il y avait une fâcheuse tendance à... Il y avait une fâcheuse tendance en fait à me faire chanter au déjeuner, vous savez, un peu la bête savante après le déjeuner du dimanche, tiens Alban, chante-nous une chanson ou un truc comme ça. Depuis quelques années, ils ont arrêté de le faire parce que je coûte de plus en plus cher, donc du coup maintenant je leur demande de l'argent. C'est ça, voilà. Et je crois que ma mère a demandé des cachets elle aussi, mais des doliprane parce que au bout d'un moment, je chantais un peu trop.
Ah ouais. Oui, non, ça devait être à un moment donné, oui, c'est sûr que d'entendre tout le temps chanter. Et
surtout que moi j'étais en boucle sur les mêmes chansons. En général, oui, pendant ça. Un mois, tu m'entendais chanter.
Et à l'école aussi, vous osiez chanter justement devant des gens que vous ne connaissiez pas.
Oui.
Ouais.
C'est ça qui est fou. J'avais une certaine inconscience. Aujourd'hui, je suis assez timide de chanter devant un public. Plus il est restreint, plus on a peur. En plus, je trouve.
Ouais.
Mais à l'école, non, j'aimais bien à la récré, à la cantine. C'était mes moments et j'avais mon petit harem. Alors souvent des filles, hein, parce que évidemment, quand tu chantes à l'école, t'es le PD de service et du coup, on vient pas te voir. Mais j'avais mon petit harem de filles autour de moi et on chantait. À la récré.
À chaque fois. Et Vindrey, c'est vrai que vous habitez proche du cirque d'hiver, hein, dans le 11e arrondissement de Paris. Votre papa était tailleur sur mesure, votre mère ne travaille pas, et c'est vrai que votre père habillait le directeur du cirque, le célèbre Joseph Bouglione. Tous les mercredis soirs, d'ailleurs, vous assistiez aux représentations du cirque. D'ailleurs, je crois que vous en aviez ras-le-bol à un moment donné.
Hein. Carrément, mon frère et moi, nous ne voulions pas aller au cirque d'hiver. C'est le rêve de tous les enfants d'aller au cirque.
Bah ouais.
Et c'était le rêve de mon père
aussi.
Mais
quand c'est tous les mercredis. Hein.
Oui, mais mon papa, il adorait ça. Il avait été tellement frustré de sa vie de petit garçon qui a travaillé dès l'âge de 12 ans, etc., que aller au cirque, c'était pour lui magique. Et vous l'auriez vu se plier de rire aux clowns du cirque d'hiver. Nous, on était là à le regarder, on trouvait ça nul, quoi.
Et Alban, c'est vrai qu'on parlait de scène. Hein. J'ai une anecdote aussi politique. Parce qu'il y avait un peu de politique. Hein. Vous avez été député junior, il me semble. Oui. Oui, et à 11 ans, en CM2, vous êtes dans la classe de Madame Coffi.
Oui.
Et vous avez présenté un projet de loi qui permettait aux enfants de personnes incarcérées de pouvoir passer plus de temps avec leurs parents à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ben oui, on avait une maîtresse. J'étais quoi? J'étais en quoi? En CP? CE1?
Ouais. En CM2.
CM2, voilà.
Enfin,
c'est ça, j'étais en CM2.
Ouais.
Oui, parce qu'en CP, pour être député junior,
c'est moi qui connais mieux sa vie.
Non, en CM2, j'étais, et Madame Coffi, que j'adorais d'ailleurs, je l'embrasse si elle nous écoute, je sais pas où elle est aujourd'hui, mais en tout cas je l'aimais beaucoup, elle avait décidé de nous inscrire au Parlement des enfants. Chaque année il faut le Parlement des enfants, et dans chaque classe sélectionnée il fallait sélectionner un délégué. Moi j'avais fait une campagne électorale comme jamais, et j'avais été élu pour justement représenter notre classe au Parlement des enfants, et on avait fait ce projet de loi qui n'avait pas abouti, mais voilà, j'avais siégé à l'Assemblée nationale pendant ce Parlement, j'ai appuyé sur le bouton pour voter, et c'était une expérience assez inoubliable.
Et comment elle est venue cette idée de permettre justement de permettre aux enfants de personnes incarcérées de pouvoir passer plus de temps avec leurs parents? Elle est née comment?
Alors, c'était un travail de groupe? C'est un travail de groupe, oui, complètement. C'était un travail de groupe. Je pense qu'on était une bonne vingtaine d'élèves, et je t'avoue que je ne me rappelle absolument pas de comment est venue cette idée, de par qui est venue cette idée. Je pense qu'elle a recueilli dans mon souvenir qu'elle avait recueilli plein d'idées dans une boîte, et qu'après on était passé à un vote ou un truc comme ça, et après on avait travaillé justement sur le projet de loi rédigé. Voilà.
Et ça n'a pas donné envie de faire de la politique derrière?
Pas du tout.
Non.
Bah alors, pas du tout. Non, moi, je vous avoue, j'étais plus intéressé par l'aspect esthétique de l'Assemblée nationale, que je trouvais magnifique. Le Palais Bourbon qui est incroyable. Et puis, je crois que j'étais déjà attiré par le micro, par la caméra, etc. Mais c'est vrai que la politique, c'est pas. C'est pas mon délire. Je crois que je suis bien trop naturel pour faire de la politique.
Alors c'est vrai qu'après l'enfance, il y a l'adolescence. De nos invités, Evelyne Dress et Alban Bartoli. Et c'est vrai qu'Evelyne Dress, dans l'enfance d'ailleurs, comme dans l'adolescence, vous avez une souffrance, un manque d'amour de votre mère. Vous avez passé plus de temps au lit malade qu'à l'école. Une manière aussi de rester plus près de votre mère à ce moment-là. Et à l'âge de 15 ans, vous avez compris comment vous fonctionnez. Elle avait compris comment vous fonctionnez. Vous avez décidé à ce moment-là, de terminer les maladies. Hein.
Oui, c'est pas elle qui a compris, c'est moi.
C'est vous qui avez compris, ouais.
c'est moi qui ai compris que de toute façon, ça ne servait à rien de rester dans un lit à la maison, parce que pendant que j'étais en train de souffrir dans le lit, elle, elle partait s'amuser avec sa copine, une copine qui s'appelait Bella, et avec laquelle elle passait ses journées entières, et moi je l'attendais, je passais mon temps à l'attendre, et je dessinais en l'attendant, et pour passer mes nerfs. Et donc à 15 ans...
C'est une souffrance ça quand même.
Ah
hein.
Bah oui, terrible, ouais. Terrible. Ouais. Et parce que moi quand je lui demandais, quand elle rentrait épuisée de son après-midi, je lui disais, on sort un peu, on va jusqu'à la République, on était à 300 mètres de la République. Je dis, on va toutes les deux ouais. marcher, tout ça. Elle refusait tout le temps. Et ça, c'est une souffrance épouvantable. Il y a un souvenir épouvantable.
Une sorte de différence aussi avec d'autres enfants, peut-être vous compariez à ces comportements avec d'autres personnes.
Je ne sais pas, j'en ai pas le souvenir, mais aujourd'hui, quand je demande à mes camarades de classe, alors quel souvenir vous avez de ma mère ? Elle dit, oh, ta mère, toujours la cigarette au bec, les ongles pas faits ou écaillés, et je dis, mon père. Oh, ton père. Mais quelle merveille, ton père. C'est drôle.
Et que... c'était votre ressenti d'enfant aussi.
Oui, là, c'est ça. Ouais. Elle voyait ce que je ressentais, en fait. Et je ne pensais pas que ça se voyait à ce point. Mais en tout cas, oui, à 15 ans, j'ai compris que ça servait à rien et qu'il fallait que j'arrête d'être malade. Et que donc...
Ça a dû pêcher quand même à l'école d'être tout, très souvent absente. Vous étiez absentéiste.
Mais oui, tout à fait. Ouais. Mais j'étais une très bonne élève et... Et
quand vous étiez là.
Oui, quand j'étais là, et mes maîtresses m'aimaient beaucoup. Voilà. Ouais. Elles étaient très compatissantes et je ne sais pas si elles comprenaient le problème, mais en tout cas, elles étaient très gentilles avec moi.
Et vous, c'est vrai qu'Alban, vous êtes un très bon élève, alors jusqu'à la quatrième au collège. Après, vous avez des résultats plutôt moyens et au lycée, d'ailleurs, vous choisissez la branche littéraire. Vous avez eu le bac de justesse, hein, il me semble. Hein.
Oui, tout à fait.
Et pour ne pas avoir les foutes de votre mère, d'ailleurs, vous falsifiez vos bulletins scolaires.
Absolument. J'ai révélé, j'ai révélé ça dans mon livre il y a pas longtemps. Elle a découvert ça. Elle était contente.
Elle l'a découvert en lisant le livre dont on va parler tout
prévenu,
à l'heure.
Je l'ai prévenu avant qu'elle le lise, mais ouais. Mais oui, elle a découvert ça il y a pas longtemps. Oui, j'avais une vraie technique. En fait, je crois que je n'aimais pas le système scolaire en soi. Je m'en sortais toujours, par contre. J'ai toujours eu plus que la moyenne. Mais je crois qu'il y a plein de choses que je trouvais inutiles. Avec le recul, il y a des trucs que j'aurais dû me concentrer un peu plus. Mais bon, voilà, je pense que j'ai développé une autre intelligence, celle de falsifier les bulletins. Justement, je pense qu'il faut être assez filou
ça
pour le faire.
Ça se passait comment alors du coup?
C'était très simple.
Bex, ou
ouais, c'était très simple. Je réceptionnais. Alors, j'avais pas la clé de la boîte aux lettres.
Faut pas donner des idées à ceux qui nous écoutent.
Oui, bon, Grégory,
aujourd'hui, alors, moi j'ai fait pareil. Hein,
c'est pas vrai.
Par contre, moi, elle le sait toujours pas.
On va comparer les techniques. Alors là.
Aujourd'hui, tout est. Ils ont pas de chance, les élèves d'aujourd'hui. Tout est digitalisé. Ils reçoivent tout sur les boîtes mail.
Sur les réseaux.
Alors, ça peut se falsifier aussi, j'ai appris ça.
C'est vrai, ça hein? Se peut, mais il faut quand même un peu plus,
un
de,
peu
technique,
plus de technique.
Et il faut les codes de secret des parents, etc. Ça, c'est autre chose.
Ah, oui.
Moi, je prenais j'avais pas la clé de la boîte aux lettres parce que j'étais jeune et ma mère me la donnait pas. Et je prenais avec une espèce d'épingle la lettre quand je savais à peu près quand est-ce qu'elle allait arriver. Je la prenais, je l'ouvrais délicatement. Et je le faisais ça très rapidement pour que le tampon de la poste soit un peu cohérent avec le jour où elle le reçoit. Donc, il fallait que la veille se soit retournée dans la boîte aux lettres. Je prenais le bulletin, je mettais du Tipex sur tout ce que j'aimais pas, et ensuite j'écrivais. Alors j'ai eu un talent d'écriture, j'ai essayé de faire plein d'écritures différentes, je me suis beaucoup entraîné avec différents stylos parce qu'avant c'était à la main. Et je réécrivais.
Le Bic 5 couleurs marchait, du coup.
Voilà. Mais des choses assez cohérentes pour pas que ce soit trop gros.
Ouais.
Et ensuite, je photocopiais le bulletin pour pas que le Tipex se voit.
Ah, voilà, c'est ça.
Et je remettais ça, bien
au
délicatement.
Propre, voilà.
Sauf que j'allais beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que je falsifiais aussi chacun de mes contrôles.
D'accord.
Et que je réécrivais, que je corrigeais à la place des profs pour que la moyenne que j'avais écrite dans le bulletin soit cohérente avec les notes que j'ai données à ma mère.
Mais vous êtes un vrai faussaire.
Ah ouais, et en fait, je prenais beaucoup plus de temps à faire ça, enfin je pense que j'aurais perdu moins de temps à réviser au final, parce que ça me prenait un temps fou.
Ah ouais, mais c'est vrai que c'est ce que j'allais dire.
Et c'était moins excitant de réviser.
Bon,
voilà.
Evelyne, elle n'y allait pas à l'école. Alban, il falsifiait ses bulletins.
Et finalement, on arrive quand même à faire carrière.
À faire ce qu'on veut, voilà.
Oui, exactement. Même moi, hein, j'ai réussi à fausser ma maman et réussir à trouver après le travail et être bien.
Bon, voilà.
Enfin, on n'est peut-être pas des exemples à donner.
Bon, bah, voilà. Quant à nous, on va continuer tout de suite le beau parcours d'Alban Bartoli et d'Evelyne Dress. On revient dans un instant sur Espace FM, c'est ton parcours.
Cette émission vous est offerte par le cabinet Myriam. Plus de renseignements, 01 47 04 59 59 ou le 06 32 22 37 01.
Attention, est-ce que vous connaissez VT Superstore, la maison créole à Garges-lès-Gonesse? Vous trouverez tous vos produits en provenance des Antilles, de la Caraïbe et de l'Asie. Dachine, igname, avocat, poisson, morue, lambi, crevettes. Sans oublier nos boissons et jus de canne pays. Vitrine, pâtisserie, rayon cosmétique et tous nos épices en provenance de l'Asie. La Maison Créole, ouvert tous les jours de 9 à 21h au 5 rue Marcel Cerdan à Garges-lès-Gonesse. Info 01 39 88 49 31. Un parking assuré.
AGS, le spécialiste du déménagement en Europe, en Afrique et les DOM-TOM, prend en charge le transport de votre véhicule en conteneur depuis sa propre plateforme jusqu'à destination. AGS, le seul déménageur installé dans les départements et territoires d'outre-mer depuis plus de 35 ans, répond à toutes vos attentes. AGS transporte tous vos colis, du simple colis au conteneur complet, dépôt-dépôt ou domicile à domicile. Bénéficiez d'une procédure totalement sécurisée. AGS Déménagements Internationaux et Garde-Meubles. AGS s'occupe de tout. Prise en charge de l'ensemble des procédures administratives et douanières. AGS, le meilleur conseil au meilleur prix. Devis gratuit, AGS Paris, 01 40 80 20 20. AGS, nous vous devons le meilleur.
Monsieur, faites sortir madame. Madame, faites sortir monsieur. Attention, tous les week-ends, je vous amène au Délice. Le Délice, ouvert jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Retenez le programme. Le jeudi soir, les afters de 19h à 2h du matin. Le vendredi soir, le Délice vous attend à partir de 20h. Et attention, samedi au souhait, nous dansons sur toutes les nouveautés et gros souvenirs. Le dimanche, le midi minuit, Zotza Connect. Le Délice, ouvert jeudi, vendredi, samedi et dimanche, on fait passer le message.
Attention, événement. Du zouk et encore du zouk. Made in Music en concert. La machine à danser sera en concert à la mythique salle de la Cigale à Paris. Le samedi 11 février 2023 à 20h. Made in Music en concert. Avec en invité, Monsieur Sadik. Daniel René Corail. Suzy Trébeau. Et un monument du zouk, Frédéric Caracas. Un concert proposé par GC Productions, Air Caraïbes et Alwego. Made in Music en concert à la Cigale. Billets en vente sur Bizouk et Fnac.com.
Yo dis jou malais pas ni prengade. Eh bien justement, Assurance Colombo là pour prengade bao. Si ou l'hôpital ici, famille a ou kavin voir. Si Basile prend Yondi yo, Apa, Aman, Fouè, CC ou Petit qui ka vive au pays, Assurance Colombo ka ba on billet la même. Si malè rive yo, yo ka mene kora au pays, on moun ka accompagne yo, et on bel l'argent sérié. Kriye yo en fois, 0 Yon 43 14 23 23.
Magic Love Voyage, c'est le numéro 1 des billets d'avion sur les Antilles et bien d'autres destinations depuis 28 ans. Magic Club Voyage est la seule agence en France à vous proposer des paiements de 3 à 20 mois. Avec Magic Club Voyage, c'est deux valises de 23 kilos, soit 46 kilos en soute par personne. Avec Magic Club Voyage, partez dès demain et payez en plusieurs mois à votre convenance. Et c'est vous qui décidez. Alors n'hésitez plus. Magic Club Voyage, 01 48 56 2000. 01 48 56 2000. Voyagez maintenant et payez après. Magic Club Voyage.
Retrouvez le thé dansant intergénérationnel dimanche 8 janvier de midi à 19h30 à la maison de quartier Les Vignes Blanches, 9 avenue des Noailles à Sarcelles. En artiste invité Francis Mave et au contrôle DJ Papi. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Restauration sur place, menu 15€, riz jonjon, riz pois d'Angol, aile de dinde, vin et galette des rois offerts. Info et réservation du menu au 06 60 13 72 74 dimanche 8 janvier, le thé dansant intergénérationnel. C'est avec STL.
Cette émission vous est offerte par le cabinet Myriam. Plus de renseignements, 01 47 04 59 59 ou le 06 32 22 37 01.
Espace FM.
Espace FM. De retour dans votre émission, c'est ton parcours de ce lundi soir avec Nicolas et ses deux invités qui sont Evelyne Dress et
Alban Bartoli. De retour dans cet parcours avec nos deux invités, on va continuer justement à parler de leur incroyable histoire dans cette émission. On était à l'adolescence qu'on va continuer, et c'est vrai que Evelyne Dress, vous faites partie d'une famille modeste. D'ailleurs, de votre adolescence, vous gardez pas beaucoup de souvenirs. Ça, c'est marrant quand même. Vous sortez pas, comme peuvent le faire d'autres ados, hein, et vous avez cette partie de votre parcours comme un peu supprimée de votre mémoire.
Oui, c'est vrai, et je ne sais plus rien de cette histoire.
C'est incroyable, ça, quand même, ouais. de pas avoir le moindre souvenir de son adolescence.
Bah ouais.
Alors, est-ce que vous avez pas de souvenir ou vous voulez pas vous en souvenir?
Je sais pas. Ouais. Il faudrait que j'aille voir le psy, peut-être, mais non, je...
Bon, installons-nous dans un fauteuil, Evelyne.
Oui. et la preuve en est, c'est que quand je me mets à écrire, il y a des tas de choses qui me remontent et que j'écris dans mes livres. Donc, probablement que je n'ai pas tout oublié, mais comme ça, si je me souviens par exemple de Flash, alors je ne sais pas si les autres sont comme moi, hein, mais par exemple, justement au Cirque d'hiver, Roger Lanzac avait une émission de radio, je crois que ça s'appelait Dop Dop Dop, quelque chose comme ça.
Et ça, vous aviez le souvenir de quoi, de le regarder à la télé ou comme
non,
ça?
Non, pas du tout, non, d'y avoir participé avec une copine, ma meilleure amie de l'époque qui habitait sur le trottoir d'en face, et je crois que il y avait plusieurs enfants comme ça qui étaient, on était dans le Cirque d'hiver sur la scène comme ça, et ils posaient des questions et il fallait répondre. Moi, je connaissais pas la réponse, ma copine non plus, mais public, il y a quelqu'un qui a soufflé.
Ah oui.
La réponse.
D'accord.
Et ma copine, qui est plus intelligente que moi, a dit « Moi, je sais !» Et elle a répondu.
Ah bon ?
Elle a dit la réponse, et elle a gagné le vélo.
Ah bah
voilà. Donc, je me souviens de ça, parce que ça a été terrible pour moi.
Bah ouais.
Elle avait les moyens de s'acheter un vélo, moi pas. Et donc, c'est elle qui est partie avec le vélo. Mais ça dit beaucoup de choses. C'est que quand on est pauvre, on a des peurs, et j'aurais pas répété ce que j'avais entendu dans la salle. Moi aussi, je l'avais entendu, la réponse.
Ouais, bien sûr.
Mais elle avait l'assurance des gens qui ont de l'argent.
Ouais.
Voilà. Et donc, elle est partie avec le vélo. Donc, je m'en souviens de ça.
Au moins un souvenir d'adolescence, Evelyne.
Au moins.
C'est vrai qu'Alban Bartoli, à la suite de votre bac, vous vous inscrivez à la Sorbonne en langue littérature, hein, c'est ça?
Oui.
Civilisation en espagnol, hein, pour être éventuellement prof, traducteur, interprète notamment. Vous vous ennuyez. Et sans le dire à vos parents, à ce moment-là, vous passez un casting pour entrer dans une école de comédie musicale. Et c'était à Bastille, hein, je crois.
Oui.
Et là, vous êtes pris.
Oui.
Et comment ça s'est passé, ça?
En fait, oui, je suis allé à la Sorbonne un peu. Bon, je veux être chanteur depuis que je suis tout petit, hein, donc ma mère était pas très surprise. Mais c'était important pour elle que je fasse un bac et que je continue des études. Donc, je me suis inscrit à la Sorbonne en langue, littérature, civilisation étrangère, en espagnol. Et en fait, quand j'ai commencé le cursus, qui était pas si difficile que ça, j'ai trouvé ça même plus facile que le lycée. C'est bizarre, mais
comme quoi.
Et plus les matins avançaient, plus j'avais du mal à me lever pour y aller, et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire avec cette licence? Alors, je commence à faire le récap de ce que je vais faire avec cette licence. Est-ce que tu veux être prof? Non. Est-ce que tu veux être traducteur? Non. Est-ce que tu veux être interprète? Non. Au bout d'un moment, l'étau se resserrait, et je me suis dit, mais il va falloir que je réagisse, parce que je vais pas quand même me taper une licence pendant 3 ans.
Ouais.
Enfin, c'est quand même un parcours. Du coup, je me suis renseigné sur une autre école. Je me suis dit que la meilleure manière que ma mère accepte ça, c'est que ce soit une école. Parce que je pense que c'est important pour elle. Je pense qu'on va y venir après, mais c'est son métier. Du coup, elle est propriétaire d'une école privée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le moyen de la payer. J'ai passé l'audition. J'ai été accepté. J'ai tout prévu. J'ai pris
un boulot.
Voilà. Et le jour où tout était bien réglé, Je l'ai appelé, je lui ai demandé de s'asseoir, et là je lui ai annoncé la.
Incroyable quand même.
Je lui ai fait passer la pilule qui est passée très bien finalement parce que j'avais tout prévu.
Voilà,
elle a pas eu le temps de s'inquiéter. Voilà, ça a été très
rapidement.
Ouais.
Tout en off hein, justement pour pas que les parents s'inquiètent parce qu'évidemment avant tout c'est les études et en plus dans ce métier-là c'est vrai que quand on a une passion pour le chant, on peut se dire ouais, est-ce qu'il va faire carrière, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est un rêve d'enfant.
Bien sûr.
Notamment et là à ce moment-là tout a commencé. On va se concentrer maintenant sur vos débuts dans vos métiers respectifs, Evelyne Dress, Alban Bartholi. Ces rencontres, événements qui ont fait de vous des personnalités appréciées du public aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Evelyne Dress, l'envie d'être comédienne devient de plus en plus forte après ça.
Oui, ça peut croiser l'histoire d'Alban d'ailleurs, parce que comme moi je n'avais pas voulu continuer mes études après le bac, mon papa m'a offert, payé, quand je vous raconte qu'on avait du mal à finir les fins de mois à la maison... le fait qu'il me paye une école privée pour apprendre la sténodactylo, parce que pour lui être secrétaire de direction ça devait être le summum, et que alors la sténo ça rentrait pas hein. Franchement c'était pas possible, et que je suis allée passer, alors je sais pas si on le racontera, le concours du centre de la rue Blanche.
Ah ouais.
Et que j'ai été reçue du premier coup. Eh bien, c'était comme pour Alban, comme c'est une école d'État, eh bien, mon père a totalement accepté, il a perdu les 5000 francs qu'il avait versés.
Oui, mais au départ, c'est grâce à un ami de votre frère que
vous rentrez. Oui, tout à fait, parce que, alors, mon frère avait un copain qui venait jouer de la guitare à la maison tous les jours, et lui préparait le centre de la rue Blanche. Et je lui ai dit, tu sais, moi, c'est mon rêve, j'aimerais devenir comédienne, et il m'a dit, bah, t'as qu'à passer le concours, tu seras pas reçue, mais au moins tu sauras comment ça se passe. Je lui ai dit, mais d'accord, mais alors qu'est-ce que j'apprends? Alors, il m'a montré les deux scènes, une dans Marianne, le rôle de Marianne dans Les Caprices de Marianne, et Sylvia du jeu de l'amour et du hasard. Et donc, j'ai passé au premier tour. C'était, je me suis inscrite 5 jours avant la fin des inscriptions. Et au premier tour, j'ai passé Sylvia du jeu de l'amour et du hasard, et j'ai été prise. Et il ne restait plus qu'un deuxième tour. Alors, ça aurait été trop bête que je le rate. C'était Marianne dans Les Caprices de Marianne. Et là où il m'a beaucoup aidé, c'est qu'il avait raison de me distribuer, de me conseiller d'apprendre ces deux
comme
personnages.
Quoi,
oui, ça me collait. C'est, ouais. Je ressemblais au personnage. C'était un bon casting, quoi. Et donc, et lui n'a pas été reçu. Alors, évidemment, ça a été très dur. Nos relations ont été ensuite très, très mauvaises.
Vous avez justement découvert à ce moment-là les rivalités, la jalousie aussi du
métier. Oui, bien sûr. Ouais. L'école, c'est un métier très cruel, être comédien. Et donc, il y a des rivalités entre filles et garçons. Pas seulement entre filles. Et donc, oui, j'ai appris... Tout ce qu'il fallait savoir du métier dès le centre de la rue Blanche. Mais au centre, j'avais une amie très importante, une jeune fille ravissante qui s'appelait Dani Clément.
On va en parler après.
Ouais.
On va parler d'elle.
D'accord. Vous l'avez retrouvée. J'aimerais bien.
Elle est là. Et c'est vrai qu'Alban, vous démarrez votre carrière très jeune, vous. Une émission, notamment, a marqué vos débuts. C'est Drôle de petits champions sur TF1. Un télécrochet, c'était 1h30 de prime. Alors il y avait plein de justement, c'était au profit d'enfants différents. Hein. Au départ, c'est vrai que vous avez découpé des annonces de casting dans des magazines. C'est comme ça que ça s'est fait, je crois.
Oui.
C'est comme ça que vous êtes arrivé
là. En fait, j'achetais à l'époque ce qu'on appelait des, moi j'appelais ça des magazines de stars.
Ouais.
Ça veut rien dire, mais c'était tout ce qui était Salut, Star Club, Fan 2, les magazines qui parlaient des chanteurs et des chanteuses. Et en fait, à la fin de ce magazine, il y avait toujours une page de casting pour différents trucs, pour de la comédie, pour de la télé, pour de la chanson. Et il y avait cette annonce de casting pour Drôle de petit champion qui était un peu le grain de star, mais sur TF1. Et donc, bah, pareil, sans le dire à ma mère, j'ai pris une enveloppe, un timbre.
Tout en secret, hein.
Tout
Alban.
En secret, ouais. Toujours. Parce que j'aime pas être influencé. Et comme je pense que je suis quelqu'un de très sensible, je peux être vite influençable.
Ouais.
Et
quand on dit, fais pas ça, tu vas perdre ton temps, il y a beaucoup de monde.
Ouais, et puis ma mère, c'était la suprématie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle me disait non, je ne pouvais rien y faire. Et je préférais le faire dans son dos avant qu'elle me dise non, puisque au moins, voilà. Et
moi, c'est maman, c'est bon, je suis pris, je suis là, machin.
Exactement. Et en fait, c'est en te parlant que je viens de me rendre compte que finalement, c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois, ça.
Ouais.
Et du coup voilà, j'ai découpé cette annonce, j'ai enregistré sur un comment on appelle ça, un magnéto, tu sais, il y avait un magnéto à l'époque.
Avec les VHS.
Ouais, c'était une petite cassette, c'était pas un VHS.
Ah oui, les petites cassettes audio.
Et qu'on remontait avec le crayon comme ça là.
Et on a connu Grégory aussi, on s'en souvient.
Ah très bien.
Et du coup, j'ai enregistré deux titres a cappella comme ça et puis j'ai envoyé ça par la poste avec une petite lettre hyper innocente, mon rêve c'est d'être chanteur, voilà. Et puis un jour ma mère reçoit un appel sur le téléphone fixe.
Elle a dû quand même tomber des nues parce que
Heureusement j'étais à côté d'elle.
Ouais.
J'étais à côté d'elle et elle me dit mais attendez,
non, excusez-moi, c'est une erreur.
Je vois pas de quoi, non, je vois pas de quoi vous parlez. Je dis mais c'est maman, c'est drôle, le petit champion, ah, trop bien. J'étais déjà trop content. Ouais. Et je pense qu'elle a vu que j'étais tellement content que voilà, elle a accepté de m'accompagner au casting.
Et c'est vrai qu'Evelyne Dress, on parlait justement de cette personne qui a particulièrement compté à vos débuts, c'est donc Dany Clément. Pour l'expliquer un peu, c'est la sœur du chanteur
Guy Mardel.
Mmh. C'est elle qui vous a fait connaître tous les lieux où il fallait se montrer notamment, en espérant décrocher des rôles. Mmh. Et vous passez vos journées au studio des Buttes Chaumont, notamment dans un couloir, il me semble.
Oui, bizarre, ça s'appelait le couloir de la mort, au deuxième supérieur.
Pour avoir des rôles.
Et oui, parce que à l'époque, les castings n'existaient pas.
Ouais.
Et on avait le contact direct avec les réalisateurs à travers l'assistant, le premier assistant, ou bien direct avec le réalisateur. Parce que dans ce couloir, il y avait des portes de chaque côté du couloir. Et derrière chaque porte, il y avait un bureau de préparation d'un film. Pour la télé, on est dans le domaine de la télé. Et donc, il suffisait d'y passer sa journée avec ses photos sous le bras et d'essayer de glisser la photo à un assistant ou bien au réalisateur. Monsieur, je peux vous laisser ma photo? Voilà.
Et il réagissait comment? Généralement, il regardait même pas ou alors il prenait...
C'est-à-dire que ils en recevaient beaucoup dans la journée. Hein.
Et oui, mais justement, de faire cette démarche, d'être sur place, ça a peut-être dû un peu plus les...
En tout cas, je les ai tous rencontrés, je les ai tous connus. Ça n'a pas toujours marché. J'ai aussi commencé par faire de la figuration. Et en tout cas, bon, voilà, de fil en aiguille, j'y suis arrivée.
C'est vrai que être là au bon moment, passer de l'ombre à la lumière et être là au bon moment ou faire les bonnes choses au bon moment.
C'est ça.
Ou la chance.
C'est ce que nous disait Robert Manuel, qui était notre professeur au centre de la rue Blanche, et il disait la principale qualité d'un comédien, c'est d'être là.
Au bon moment.
Voilà. Même, il rajoutait même là. Pas au bon moment d'être là.
Ouais. Je pense
voilà.
que c'est le cas pour tous les artistes.
Hein. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de hasard et parfois quand on fait la bonne rencontre qui donne la bonne opportunité. On va parler de ce début de parcours. Evelyne Dress, Alban Bartoli, justement, vos expériences, les principaux événements de votre carrière. Et c'est vrai qu'au début, on est au début des années 70, Evelyne Dress, vous êtes engagée dans la comédie musicale au Calcutta. C'est un spectacle qui avait à l'époque défrayé la chronique.
Ouais.
Parce que vous êtes nue sur scène.
Ouais.
Et pourtant, il vous a permis de jouer au théâtre dans Le Marchand de Venise de Shakespeare. Et dans le film aussi Beau Masque de Bernard Paul. Comment justement s'est fait au départ cette arrivée dans cette pièce? Parce que c'est vrai que ça a vraiment c'était un scandale à l'époque. Hein.
Tout à fait.
Ouais.
Mais je suis spécialiste des scandales. Et donc j'avais une amie qui s'appelait Sophie Vaillant et qui était très très jolie. Et ça me fait plaisir de l'évoquer parce qu'elle s'est suicidée en Australie il y a quelques années. Et donc elle me bousculait beaucoup parce que moi j'étais très timide. Et c'est elle qui m'a appris à me maquiller, à m'habiller.
Ah oui, à tout faire.
Elle m'a tout appris.
Ouais, ouais.
Parce qu'elle voulait être comédienne, mannequin, tout ça. Enfin bon, elle avait des ambitions. Et elle me trouvait trop prude, trop renfermée, voilà. Et donc elle me poussait sans arrêt. Et elle avait envoyé ses photos pour l'audition de Au Calcutta. Mmh. Et elle me dit mais tu devrais envoyer ta photo. Oh, mais t'es folle. Moi je me mettre nue mais c'est pas possible et tout ça. Oh mais
parce que là c'est vraiment passé de l'ombre à la lumière, c'est de le dire.
Rabat-joie de là. Alors bon, elle
premier rôle à poil.
Et oui, elle m'a tellement poussée que bon finalement j'ai envoyé ma photo parce que j'étais vexée de ce qu'elle me disait et finalement on m'a appelée pour passer le casting. Mmh. Et elle aussi, mais je suis restée plus longtemps dans la course qu'elle. Et je suis arrivée jusqu'au final. Parce qu'il y a eu vraiment énormément de passages, de repassages, etc. Et on a écumé.
Ouais, au fur et à mesure.
Au fur et à mesure. Et je suis restée dans les dernières. Et, je peux vous dire, la dernière audition, on m'a téléphoné en me disant, jusque-là, j'avais jamais été nue, hein, dans les auditions. Et on m'a dit, bon, alors, ça se passera à tel endroit, ne vous inquiétez pas, la pièce sera chauffée. Ah. Alors, sans me dire, vous allez vous déshabiller, mais la pièce sera chauffée. Ça voulait dire ce que ça voulait dire.
Exactement.
Donc, moi, je me suis dit, je vais pas mettre de culotte, je vais pas mettre de soutien-gorge, je vais vite me déshabiller et que ça aille le plus rapidement possible, qu'ils voient rien du tout. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand et ils m'ont dit, voilà, la situation, vous prenez votre douche, d'abord le téléphone sonne, vous répondez au téléphone, puis vous retournez sous la douche, la porte d'entrée sonne et vous allez ouvrir la porte. Et ils me disent subrepticement, vous avez une serviette, si vous voulez vous en servir, très bien. Allons-y, partez. Je retire tout rapidement, j'avais que la robe à retirer. Je fonce sous la douche, de dos, le téléphone sonne, je sors de la douche, je prends la serviette de bain, je réponds au téléphone, je retourne sous la douche, la porte d'entrée sonne, je remets la serviette et je vais répondre. Et donc, ils n'ont rien dû voir. Et ils m'ont dit, très bien, vous êtes engagé.
Ah bah voilà. Alban, c'est vrai qu'en 2008, vous remportez le pilote de l'émission Envoyez la musique sur TF1.
Oui, et c'est pas habillé.
Ah oui, mais cette fois-ci.
Moi, je pouvais pas me permettre. Hein.
Et c'est vrai que c'était un tout nouveau jeu où le public joue aussi, hein, soit un grand concours télé de karaoké notamment. L'émission, elle aura mais jamais été diffusée.
Exactement, parce que c'était un pilote en fait. Je venais juste assister dans le public à un pilote d'une émission. Il devait faire un choix pour animer l'émission. Donc il y a plusieurs animateurs qui sont passés, Alexandre Rojoubert, Vincent Lagaffe, Sébastien Follin à l'époque. Et à un moment donné, il y a l'animateur qui dit qui veut jouer dans le public. Je lève la main et en fait il y a tellement de gens qui lèvent la main que personne ne calcule et il sait pas faire un choix et il dit c'est pas grave, je vais tendre le micro et puis on verra. Et j'ai tapé ma meilleure vibes pour essayer de... Il a dit ah, toi tu viens avec nous. Et en fait je savais que je venais jouer pour du beurre, parce qu'on parle de pilote, donc ouais. Évidemment ils ont bien précisé que l'argent qui était en jeu on n'allait pas le toucher, mais j'étais quand même content, c'était rigolo. Sauf que j'ai gagné la plus haute somme, enfin le truc le plus gros qui existait dans l'émission, pour de faux évidemment. Du coup, pour me remercier, ils m'ont offert 1 500 €.
Ah bah voilà. Au moins, ça n'a pas été incroyable, diffusé, mais c'est plutôt pas mal.
Ils m'ont offert 1 500 €. Bah j'étais super content.
Ah bah ouais, bien sûr. Même sans diffusion.
J'étais dans le public à la base, donc c'était trop bien. Hein. Mais c'est ce genre de petites expériences qui te donnent un peu confiance aussi.
Ouais.
Je chantais devant un
et même
public,
d'être rémunéré aussi
télé,
pour
ouais,
ce qu'on
après,
fait.
Je sais que j'étais pas rémunéré par la qualité de ma chanson, parce que là il fallait trouver les paroles.
Ouais, mais
etc.
D'avoir eu la chance de participer.
Mais j'étais content. Je me suis dit c'est une première expérience avant de refaire un autre plateau, parce que c'était quelques années après dans le Petit Champion, donc forcément.
Là, c'est sûr.
Ouais.
Evelyne Dress en 1978. Là, vous êtes en train de jouer Plantons sous la suie. C'est au Café de la Gare.
C'est une comédie musicale.
Et c'est un réalisateur, Patrick Schulman, qui est présent dans la salle. Il vous repère à ce moment-là.
Ouais.
Il vous propose d'être la vedette du film et la tendresse Bordel, d'ailleurs, dont vous parle encore toujours aujourd'hui. Mm. Vous incarnez le rôle d'Eva. Et là, faut le dire, là, c'est un vrai envol, un vrai boom dans votre carrière.
Bah oui, parce que c'est un énorme succès. Ouais. 4 millions d'entrées face à un film avec Belmondo, je me souviens plus duquel. Et on rivalisait. Mmh. Or, à l'époque, Belmondo, c'était vraiment une star qui pulvérisait tous les records de recettes. Et donc, tenir tête à un film de Belmondo, c'était assez extraordinaire. Mmh. Et donc, oui, et La tendresse Bordel est devenu un film culte dont on me parle toujours.
Ouais.
C'est encore une référence dans mon CV. Et je suis très heureuse de l'avoir fait.
Ça a été un vrai boom.
Je ne crache pas dans la soupe.
Derrière, on suivi.
Oui.
Et ça
a complètement changé ma carrière parce que je faisais du théâtre depuis 10 ans. J'étais respectée comme comédienne. Tout le monde disait que j'étais une bonne comédienne. Mais tout à coup, je suis passée quand même de l'ombre à la lumière. Ouais. Les gens vous reconnaissaient dans la rue.
Voilà. C'est ça la différence, hein, justement.
Tout à fait.
On peut avoir souvent même plusieurs expériences, mais il suffit qu'une expérience soit assez médiatisée ou beaucoup regardée, où là, justement, ça amène d'autres projets derrière.
Cela dit, ça m'arriverait aujourd'hui, je vivrais les choses différemment. C'est qu'à l'époque, je trouvais ça totalement injuste de devenir vedette.
Juste pour un film, quand on a 10 ans avant ça.
Alors que j'avais joué des grands textes au théâtre. Ouais. Voilà, Le Marchand de Venise avec Claude Dauphin au théâtre Édouard VII, avec une critique absolument dithyrambique qui ferait rêver toutes les comédiennes, de Jean-Jacques Gauthier qui était le critique qui faisait la pluie et le beau temps et à l'époque. Et donc voilà, j'avais une vraie carrière de comédienne, et sur un film dont certains que certains trouvaient très léger, ouais.
Et qui avait cartonné.
Et voilà, je devenais vedette.
Alban Bartoli, c'est vrai que on en avait parlé d'ailleurs dans une autre émission. Vous avez intégré aussi Star Academy. Voilà, vous allez me regarder en disant aucun rapport. Mais bizarrement, un peu de nuit quand même. De nuit. Illégalement. Vous étiez avec une bande d'amis, dont un ex-star académicien.
Exactement, oui.
Vous avez pu lire quand même, grâce à ça, les confidences sur les murs des toilettes de Grégory Le Marchal, Jennifer, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé, ou encore Olivia Ruiz.
Exactement. Et d'ailleurs, la personne qui est juste derrière toi ne peut en témoigner puisqu'elle était aussi
bravo
que moi. Puisqu'elle était dans ce fameux château.
Muriel qui accompagne Alban aujourd'hui.
Exactement. Ça c'est très anecdotique, mais c'est vrai que moi je suis de la génération Star Academy. J'ai rêvé devant cette émission et je pense que j'ai appris une grosse partie de mon répertoire international et français grâce à cette émission.
Et Alban, je vais vous faire une confidence, c'est aussi mon rêve.
C'est vrai.
Faire Star Academy. Ah oui, en prof.
Mais je pense que c'est...
Non, pas en prof.
Ah bon, en élève.
Mais c'est vrai. Se retrouver.
Il faut avoir 18 ans, Evelyne.
Se retrouver.
Et alors.
Et la tendresse bordelle. On les a. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est le rêve de plein d'artistes de se retrouver comme ça dans ce genre d'environnement où on prend des cours, où on s'enrichit, ça va très vite. En même temps, il y a les gens du métier qui t'appellent derrière. Alors je pense que, comme toute télé et comme tout projet qui te propulse très très vite, ça peut être hyper destructeur, mais je pense que c'est hyper enrichissant. Et moi, c'était mon rêve d'intégrer ce château, et j'ai échoué au casting de la Starac 8, je crois. Qu'à cela ne tienne, je suis rentré dans le château par effraction en pleine nuit, quand le château était évidemment abandonné, et puis on a visité, et c'était rigolo.
C'était plutôt bien. Ouais. Allez, quant à nous, on va revenir dans un instant sur Espace FM avec la suite de C'est ton parcours avec nos invités Alban Bartoli et Evelyne Dress.
Cette émission vous est offerte par le cabinet Myriam. Plus de renseignements, 01 47 04 59 59 ou le 06 32 22 37 01. Discount, les billets d'avion pas chers à destination des Antilles, de l'océan Indien, la Réunion, l'île Maurice, mais aussi l'Afrique. Appelez-nous au 01 40 15 15 12. Chez Billets Discount, nous sommes à votre écoute tous les jours au 01 40 15 15 12 ou sur notre site internet www.billetsdiscount.com. À bientôt.
Conditions et détails de l'offre sur notre site internet.
Attention, est-ce que vous connaissez VT Superstore, la maison créole à Garges-lès-Gonesse? Vous trouverez tous vos produits en provenance des Antilles, de la Caraïbe et de l'Asie. Dachine, igname, avocat, poisson, morue, lambie, crevettes. Sans oublier nos boissons et jus de canne pays. Vitrine, pâtisserie, rayon cosmétique et tous nos épices en provenance de l'Asie. La maison créole, ouvert tous les jours de 9 à 21h au 5 rue Marcel Cerdan à Garges-lès-Gonesse. Info 01 39 88 49 31. Un parking assuré.
Yo ti chou malè pa ni pren gad. Eh bien, justement, Assurance Colombo là pour prendre garde ba ou. Si ou l'hôpital ici, famille a ou ka vin voir. Si Basile prend yondi yo, a pa, aman, fwè, sese ou petite qui ka vive au pays, Assurance Colombo ka ba ou billet la même. Si malè rive ou, yo ka mené kor au pays, on moun ka accompagne ou et on bel l'agent sérieux. Criez yo en fois en fois. 01 43 14 23 23.
Mais c'est Voyage Antillais.
Eh oui, Doudou, Voyage Antillais, ni des agences. À Saint-Denis, 4 rue Gaston-Philippe.
et à Paris 2e, 24 rue du 4 septembre.
Il faut réserver nos billets, notre voyage pour rentrer au pays.
Pas ni problème, Doudou. Voyage Antillais Carité, l'agence numéro 1 des Antillais. Vous pouvez réveiller au 0847 42 95 07.
Waouh! Voyage Antillais nous propose les plus bas tarifs avec 46 kilos en soute et plein de facilités de paiement. Alors, pas bête temps. Voyage Antillais, là pour faire nous voyager.
Attention, vous voulez déguster un plat haïtien sur place ou à emporter? Le restaurant Aux Ananas est le numéro 1 de la spécialité. Poisson gros sel, griot, cabri, banane pesée, piclise, riz jonjon. Le restaurant Aux Ananas, ouvert tous les jours, 11h30, 23h. Animation, karaoké, DJ, live. Le restaurant Aux Ananas, c'est aussi la location de salle pour tous. Le restaurant Aux Ananas, la fierté de la communauté haïtienne. 07 68 65 41 93. 07 68 65 41 93. On fait passer le message.
Magic Love Voyage, c'est le numéro 1 des billets d'avion sur les Antilles et bien d'autres destinations depuis 28 ans. Magic Love Voyage est la seule agence en France à vous proposer des paiements de 3 à 20 mois. Avec Magic Love Voyage, c'est deux valises de 23 kilos, soit 46 kilos en soute par personne. Avec Magic Love Voyage, partez dès demain et payez en plusieurs mois à votre convenance. Et c'est vous qui décidez. Alors n'hésitez plus. Magic Love Voyage, 01 48 56 2000. 01 48 56 2000. Voyagez maintenant et payez après. Magic Love Voyage.
Cette émission vous est offerte par le cabinet Myriam. Plus de renseignements, 01 47 04 59 59 ou le 06 32 22 37 01.
C'est ton parcours. Présenté par Myriam Benjenad et Nicolas Nadeau, c'est tous les derniers lundis du mois de 18h30 à 20h sur Espace FM.
De retour dans C'est ton parcours avec nos invités Alban Bartoli, Evelyne Dress et notre Grégory National.
Merci.
Le petit merci.
Je peux me permettre de te demander un truc. Est-ce que ça te dérange de nous refaire le petit espace FM que tu nous as fait en off?
Ah oui.
Il a une jolie voix.
Espace FM. Bon, on va continuer le parcours.
Pas mal.
Alors en 86, Evelyne, on vous a vu aussi dans le téléfilm Les Bords des Larmes, réalisé par Jacques, alors je vais peut-être mal prononcer
Fonstein.
Et c'est vrai que c'est l'histoire d'une femme quittée par son mari. Et malgré les douleurs de cette séparation, elle tente de réagir avec humour. Vous incarnez d'ailleurs le rôle d'Agnès Dorieux. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? C'était marquant, cette expérience, pour vous? Pas du tout.
Non, vous voulez me faire dire quelque chose?
Qu'est-ce que vous retenez de ce film? Non, ça n'a pas été marquant, vraiment.
Non, c'est pas celui auquel je penserais en premier.
Ouais.
Mais, ce que je peux vous dire sur l'ensemble de ma carrière, c'est que finalement, j'ai eu ou des fiancés ou bien des maris dans tous les films que j'ai faits. J'ai été mariée à tous les acteurs.
À tout le monde. Tout le monde marié.
Français. J'ai tourné avec Belmondo, Piccoli, Bernard Giraudot, évidemment, Jean-François Stévenin, Richard Berry, ouais. Voilà.
Et avec Belmondo, c'était?
C'était Le Solitaire. Ouais. Avec Jean-Paul Belmondo, une expérience magnifique.
Ouais.
Parce que vraiment, Jean-Paul Belmondo est un homme très généreux. Je peux vous donner une anecdote. J'ai été appelée au théâtre par Robert Hossein pour un spectacle qu'il montait avec Jean-Paul Belmondo. Donc j'arrive au théâtre Marigny, je descends vers la scène, était devant Jean-Paul et Robert Hossein. Robert Hossein m'accueille et dit à Jean-Paul, tu connais Evelyne Dress? Et il a répondu, oui, j'ai tourné avec elle.
Ah.
Alors qu'un autre aurait dit, oui, elle a tourné avec moi.
Ah, ouais. Voilà. Ouais. C'est plutôt pas mal quand même.
Ah oui, c'est merveilleux. C'est me hisser à sa hauteur.
Ouais.
Alors que dans Le Solitaire, il était la vedette et moi, j'avais un rôle.
Mais ça montrait effectivement ce côté généreux.
Bah oui, bien sûr. De la même manière, je peux dire la même chose de Michel Piccoli.
Ouais.
On a tourné Le Divorcement de Pierre Barou, dans lequel film je jouais maman lunette, c'est-à-dire une mère qui allait qui avait un fils qui allait à l'école avec la fille de Michel Piccoli, et nous avions une séquence dans la voiture, Michel Piccoli me ramenant chez moi après un conseil de classe. Et donc, maman lunette était myope. Je dis à Pierre Barou, tu sais, moi qui suis myope, quand je veux séduire, je ne porte pas mes lunettes. Alors si tu veux bien, je joue avec, mais je les porte pas. Il dit oui, très bien. Alors Pierre Barou était comme à l'école de Claude Lelouch, c'est-à-dire il laissait l'improvisation aux comédiens. Et donc il me dit tu veux répéter ou tourner tout de suite. Alors j'ai dit non, je veux bien tourner tout de suite. Alors moteur, et à un moment donc dans ma séquence où j'étais une petite bourgeoise de banlieue s'interrogeant sur le divorce de Michel Piccoli et Léa Massari, et Piccoli me dit à un moment, mettez vos lunettes pour voir. C'était improvisé. Et alors, vous savez, c'est une petite myopie, hein. Et donc, on est parti dans une impro. À ce moment-là, Michel Piccoli aurait très bien pu reprendre la séquence à son compte et ne pas arrêter de parler. Non, il m'a juste lancé pour que je puisse, moi, avoir pleine possession de la séquence.
Sympa, ça, quand même.
Voilà. Ça dit beaucoup de la générosité d'un comédien.
Alban Bartoli, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas, vous avez aussi ouvert des boutiques de prêt-à-porter, je crois. Hein.
Oui.
Il y en a une qui s'appelait Masse. Ça veut dire Muriel,
qui est
ici, c'est ça.
Absolument.
Alban Selim,
exactement,
c'est ça.
Oui, tout à
comment
fait.
S'est fait cette aventure et comment l'idée justement d'ouvrir des boutiques de vêtements, parce que le chant quand même, ça prenait déjà une bonne partie.
Ouais, en fait, justement après cette école de comédie musicale, on a fait une série sur France Télévisions qui s'appelle Pleure pas chante sur la comédie musicale. Je courais tous les castings de comédie musicale, j'allais toujours plus ou moins loin dans les tours, et à un moment donné, j'ai eu une petite overdose de tout ça, de Paris, voilà. Et j'avais une amie qui habitait à Bordeaux. J'ai eu un coup de cœur pour cette ville et surtout un coup de cœur pour les loyers qu'ils proposaient aussi et pour les appartements qu'ils proposaient. Et du coup, on s'est décidé, on aimait beaucoup la mode, le prêt-à-porter, etc. Donc on s'est décidé avec mon ex de l'époque et Muriel justement de partir à l'aventure et d'ouvrir ces boutiques de fringues jusqu'à ce que
la chanson me
rappelle
cette période.
C'était rigolo. Clairement, c'est pas du tout.
C'est
la
fini aujourd'hui les boutiques.
Oui, bien sûr. J'ai adoré vivre à Bordeaux. En fait, c'est plus ça que je retiens plutôt que le business en lui-même, parce que moi, je me fais vite chier pour si c'est pour faire de l'argent, Artistiquement, j'avais rien à ce moment-là, donc c'est pas la meilleure période de ma vie, mais j'ai aimé vivre à Bordeaux, par contre. Voilà.
Evelyne Dress, c'est vrai que on le sait peut-être moins, vous avez été aussi animatrice télé.
Oui.
En 87, vous avez présenté une émission qui s'appelait Entrer sans frapper. Alors c'était sur Antenne 2.
Oui.
Et
Europe numéro 1 en même temps.
Ah, c'est en simultané, ouais.
Simultané, ouais.
Et à cette période d'ailleurs, vous avez senti que vous brouillez un peu votre image.
Ah bah complètement, oui.
Et à l'époque, il était justement un peu plus difficile de mélanger les genres. C'est déjà très compliqué aujourd'hui, hein, justement, d'avoir une casquette de comédienne, animatrice télé, etc. Mais là, vous avez eu l'impression d'avoir cette brouille quand même.
Oui, mais quand même, regardez, vous présentez la météo sur Canal+ aujourd'hui, Louise Bourgoin, par exemple. Et vous venez vedette au cinéma. À l'époque, c'était totalement interdit.
Contrairement aux États-Unis, hein, où c'est très ouvert.
Oui, c'est pour ça. Ouais. Quand on m'a proposé cette émission ce talk-show, j'ai pensé immédiatement à Frank Sinatra, Dean Martin, qui faisaient des claquettes, qui présentaient, qui invitaient leurs amis dans des shows, etc. Moi, je me suis dit génial, c'est exactement mon rêve. Et pas du tout.
Vous n'avez pas aimé la télé.
C'est pas que j'ai pas aimé, c'est-à-dire qu'on
en tant que présentatrice.
Moi j'ai adoré faire ça, mais ça a été trop dur, les pots de banane, j'ai glissé dessus allègrement. Et donc ça
s'est vite arrêté cette émission.
Là. Oui, elle s'est vite arrêtée enfin avec moi.
Parce qu'Entrer sans frapper, on connaît hein quand même cette émission, elle est quand même ancrée dans le paysage audiovisuel.
Oui, je pense. Oui, parce qu'elle faisait c'était pour mettre face à une émission de Thierry Ardisson sur TF1 pour rivaliser comme ça. Et c'était très
ça
gay.
Belles
très...
audiences.
Oui, oui,
ça.
C'était très ouais. gay, très bien. Et assez couillu de ma part, parce que je voulais faire différent. Et donc, à la conférence de presse, j'ai déjà... on s'en souvient, on m'en parle encore. El Kabash et Louis Berriot, qui étaient les deux producteurs, l'un pour Europe numéro 1, l'autre pour Antenne 2, m'avaient dit différent, hein, différent, différent. Ok. Alors la conférence de presse, on était assis derrière une grande table, comme une conférence de presse, quoi. Et à un moment, j'ai dit aux journalistes. Ce que j'ai de mieux est sous la table, donc je vais monter sur la table.
Allez, voilà.
D'accord.
Alors là, évidemment.
Ça, c'est la couleur.
Ça, oui.
Et c'est vrai qu'Alban Bartoli, il y a une émission qui a marqué votre vie, c'est The Voice, sur TF1. Vous faites les auditions à l'aveugle, vous gagnez une battle d'ailleurs. Vous faites partie de l'équipe de Florent Pagny à ce moment-là.
Oui. Tout à fait.
Comment ça s'est fait, ça?
De quoi? De part de...
Enfin, je veux dire, c'est cette émotion quand même aussi déjà d'être dans cette émission. Et comment vous êtes arrivé là? C'était un casting aussi que vous avez passé? Vous avez découpé aussi encore une petite annonce?
Non, ouais, on était déjà on était à l'ère d'internet, ouais. Mais non, justement, c'est en partant à Bordeaux, et c'est souvent quand on part qu'on revient vers nous. C'est ça qui est bizarre. Quand je m'éloigne un peu du truc, il y a toujours quelque chose qui m'arrive. En fait, c'est Bruno Berberès qui est directeur de casting de toutes les comédies musicales en France. Enfin, en tout cas, une grosse partie, et puis beaucoup de télécrochets aussi. M'avait tellement vu justement dans les castings de comédie musicale qu'il s'est dit, quand The Voice est arrivé, il s'est dit que ça, que ça pouvait être un programme qui correspondait. Il m'a appelé, moi je connaissais pas l'émission, enfin personne ne connaissait l'émission, elle n'existait pas en France, donc j'ai regardé la version américaine avec Christina Aguilera, avec des artistes incroyables, avec ce système de fauteuil qui se retourne et tout, et j'ai adoré le concept. Du coup, j'ai accepté de participer au casting. Il y a eu 4 sélections, donc 4 allers-retours entre Paris et Bordeaux. À ma charge, je le précise, parce que tant qu'on n'est pas dans l'émission, on te prend rien en charge. Et du coup, voilà, j'ai été sélectionné, j'ai passé les auditions à l'aveugle, les battles, et oui, effectivement, c'est une émission qui a changé ma vie, puisque c'est à partir de là que j'ai commencé à être payé pour chanter.
Alors, j'ai une question qui me taraude à chaque fois. À partir de quel moment on prend en charge vos vêtements, vos habits?
Ah bah alors. Très bonne question. Ah. Moi, alors,
il les a pris dans sa boutique.
Ah non, mais oui, alors déjà oui, mais non, même pas, parce que c'était des boutiques pour femmes. Mais quoi que j'aurais pu faire effet, j'en sais rien. Mais non, c'était en fait justement l'audition à l'aveugle. On nous prend pas en charge les vêtements, les battles. On m'a imposé le stylisme, malheureusement. Ouais. Et sur le prime, à partir des battles, en fait, on te maquille pas aux auditions à l'aveugle, on te coiffe pas. Moi, il était 1h du matin quand j'ai passé l'audition, alors que j'étais là depuis 8h. Et en fait, j'ai regretté de pas m'être maquillé. Mais pour moi, bon, à 20 ans. Pour moi, le maquillage, j'y pensais même pas. Mais c'était une expérience rigolote.
Et c'est Florent Pagny qui t'a choisi?
Absolument, ouais.
Allez,
absolument.
Tout de suite, on va faire une petite pause dans votre parcours. Et on va accueillir par téléphone notre Rémi Barreau National. Bonsoir Rémi.
Salut Nicolas.
Comment ça va?
Bonsoir Evelyne, bonsoir Alban, mais très bien. Et bonsoir Grégory.
Alors tu vas faire un portrait chinois un peu particulier de nos invités. Explique-nous tout.
Ah ben oui, puisqu'on va dévoiler 3 aspects de la personnalité de nos invités, Nicolas. Alors, Evelyne Dress, Alban Bartoli, je vais vous passer au chinois et je vais vous refaire le portrait. Evelyne Bartoli, Alban Dress, êtes-vous bien prêts?
Oui, on peut pas faire autrement, on peut pas partir.
Si vous étiez un accessoire, qui serait une aiguille?
Oh bah c'est moi, pour mon père, d'ailleurs.
Ouais. Ah oui.
Hein, c'est voilà, ça
je vous laisse. Moi, je suis assez piquant, mais...
Vous saviez piquer des revers de veston pour aider votre père,
qui est
tailleur sur mesure.
Ouais, c'est vrai. Il faut que je raconte ou quoi, non?
Oh, bah, écoutez, on peut le laisser comme ça.
Evelyne, elle a envie de parler.
Il serait une couche.
Ah, une couche.
Oh, non!
Et il faisait pipi au lit.
C'est moi, oui.
Vous étiez tellement excité d'être à Disneyland Paris que vous ne vouliez plus perdre de temps à faire la queue aux attractions. Vous êtes fait pipi dessus.
Ah bah bravo,
c'est bon, j'avais un problème, oui, je me faisais beaucoup pipi dessus, c'est vrai.
Alors justement, Evelyne Alban, vous avez droit à un deuxième accessoire de secours, heureusement. Quel accessoire seriez-vous?
Alors, Evelyne, un accessoire, oui?
Mais je sais pas, moi.
Alban?
Moi, je serais un labello.
Un labello?
Ouais.
C'est quoi un labello?
Pour les lèvres.
Ah oui,
j'ai un
vrai tic
avec ça, je peux pas m'en séparer, j'ai dans toutes mes pièces de chez moi.
Aussi, moi aussi, labello.
Ah bah voilà, ce serait des labellos.
Sinon, mais je peux devenir fou, hein.
D'accord, bah écoutez, très bien. Allez, deuxième question, si vous étiez exposé aux yeux de tous, qui serait un tableau?
Ah. Un tableau
que je ferai moi-même.
Ah bah oui.
Que je peindrai moi-même. Et des bonnes sœurs.
Vous, Evelyne, justement, parce que chez vous, il y a un triptyque qui vous représente et on aperçoit d'ailleurs ce tableau dans un de vos films.
Oui, oui, c'est vrai. Dans Pas d'amour sans amour, le film que j'ai réalisé, dans lequel je peins aussi, je fais un portrait de Gérard Darmon, dont je suis éperdument amoureuse dans le film, et on voit dans mon loft un triptyque que j'ai réalisé. Et qui est également dans mon appartement aujourd'hui, mais je peux dire que j'ai une expo de peinture au mois de mai à Versailles.
Très bien.
À Versailles.
Ah.
Ben voilà, très bien. Pour la deuxième, qui serait une enseigne lumineuse? Ah. Pour le coup, c'est vous, Alban, puisque votre nom en néon rouge était affiché sur la façade de l'Olympia en première partie de Lara Fabian.
Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, c'était un grand moment.
Ah ouais.
Un grand moment parce que j'étais pas au courant. Bon, j'étais au courant que je faisais la première partie de Lara Fabian.
Pas sur la façade.
Non, je l'ai su en fait le matin même quand un ami à moi passe devant l'Olympia, il voit mon nom, il me renvoie la photo. J'ai eu vraiment un des meilleurs réveils de ma vie, je crois.
Ah bah, tu
je m'y attendais tellement pas que c'était Noël avant Noël.
Alors justement, tous les deux, vous avez droit à une autre exposition. Si vous aviez le choix, quelle œuvre d'art seriez-vous?
Ah.
Quelle quoi?
Quelle œuvre d'art seriez-vous?
Moi.
Ah, quelle œuvre d'art seriez-vous? Alors moi, j'ai un phare dans la peinture, c'est Lucian Freud. Donc j'aurais même voulu qu'il me peigne. Donc il peint des corps. Affaissé, torturé, voilà.
C'est joyeux tout ça, Evelyne.
un peu morbide. C'est le petit fils de Freud, de Sigmund. Donc, il est très imprégné de psychanalyse.
Je vais pas être plus joyeux parce que moi ce serait la jeune fille à la perle de Vermeer parce que ma mère m'a offert un vase sur lequel j'ai flashé il y a pas longtemps, enfin l'année dernière, j'ai flashé en vitrine, je sais pas pourquoi, pour ce vase sur lequel il y avait la reproduction de ce tableau. Et quand mon grand frère l'a vu chez moi, il a eu un petit élan, il était un peu choqué parce qu'en fait c'était la seule image qu'il y avait chez mon père que je n'ai jamais connu avant sa mort.
Incroyable.
Et je ne le savais pas et j'ai eu une attirance pour ce tableau qui était hyper bizarre parce que enfin il y avait plein d'autres choses très belles dans cette boutique et je sais pas, j'étais attiré. Donc je pense que ce serait ce tableau.
Très bien, parfait. Troisième question, pour le dernier, si vous étiez un objet culturel, mais c'est moi qui vais vous le dire, vous seriez tous les deux un livre, pas tout simplement parce que vous êtes tous les deux écrivains.
Alors,
Jean Bartoli avec La Mélodie du Bonhomme.
Oui.
Témoignage d'un enfant de la télé.
Oui.
Evelyn Dreyf avec Je veux peindre et aimer. Mais là, tous les deux, mettez-vous d'accord sur une réponse commune. Si vous étiez une œuvre littéraire, laquelle seriez-vous?
Ah. Oula. Alors moi, ça veut dire, moi, je me considère vraiment pas comme un auteur, hein. Vraiment, je peux pas me mettre au rang
quand on a écrit un livre.
Mais voilà, j'ai écrit quelque chose. Après, je n'ai pas la prétention d'être un auteur. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, commune, ça va être compliqué.
Il faut que ce soit commun.
Ouais. Ouais.
Ben non. Alors, ce que je
ne veux pas partager.
Non.
Ah ben non.
Comme ça me vient plein de livres.
S'il n'y a pas d'inspiration, elle va donner rien.
Plein de livres qui ont marqué mon adolescence, comme Vipère au poing, ou bien L'Atlantide, ou bien tous les livres de Cronin, sont des livres qu'on ne lit plus aujourd'hui. Mais en tout cas. Pour moi, une œuvre majeure, c'est Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, qui est vraiment un très.
On est d'accord avec ça, Alban.
On est très d'accord.
Allez, voilà.
Sinon, il y a La Mélodie du Bonhomme d'Alban Bartoli, si vous voulez, toujours disponible.
Voilà.
Et Je veux peindre et aimer sort.
Il y aura les actus après, vous inquiétez pas.
Oui. D'accord.
Sinon, Je veux peindre et aimer un bonhomme.
Alban Dreyf, on remet tout à l'endroit. Evelyn Dreyf, Alban Bartoli, merci beaucoup pour ce portrait chinois.
Bah, merci à vous.
Merci Rémi, et bonne année.
Et au mois prochain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée Rémi.
Merci Nicolas, au revoir.
On va reprendre justement le fil du parcours d'Evelyne Dreyf et Alban Bartoli. C'est vrai que on évoque le tournage justement de Pas d'amour sans amour, Evelyne Dreyf.
Le film que j'ai réalisé.
Tout à fait, réalisé en 93.
Oui.
Il est tourné vers le Canal Saint-Martin à Paris. Vous avez d'ailleurs l'image de vous au milieu d'un décor, justement, déjà. C'est ça qui vous a imprégné. Vous attendez le moteur pour jouer la scène. À cette période, vous avez réalisé que vous étiez en train, justement, de faire ce pourquoi vous vous êtes battu dans la vie, hein, aussi, à ce moment-là. Quand vous êtes dans cet univers, ce décor, ça a été très inspirant pour vous.
Bah, c'est-à-dire que j'ai mis quelques années à réussir à trouver l'argent pour faire le film. Et ça a été un tel combat que le film était commencé déjà depuis trois semaines et j'avais pas encore eu le temps de souffler et de réaliser que j'étais en train de le faire, que je jouais le rôle principal avec des acteurs merveilleux, Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidot, Aurore Clément, Doradol, enfin un casting extraordinaire. Et tout à coup, oui, la séquence était sur moi. J'étais censée être saoule un soir et je me retrouvais sur le canal Saint-Martin. Et là, j'ai réalisé avec toutes les lumières qui étaient installées, la caméra à mes pieds et tout, je devais descendre l'escalier comme ça. Il y a un escalier au bord du canal Saint-Martin pour descendre sur atteindre la rue plus bas.
Ouais, à la rue.
Bas. Ouais. Et donc là, j'ai vu tous mes techniciens. S'affairant pour rendre la scène possible. Et à ce moment-là, j'ai eu un flash et je me suis dit, je suis en train de le tourner.
Ah bah voilà, c'est quand même beau ça, quand même.
C'est comme une naissance, en quelque
part. Ouais. C'est vrai que vous, Alban, suite à The Voice, pendant 6 mois, vous vivez de la musique en faisant des événements par-ci, par-là. C'est la première fois d'ailleurs que vous êtes payé aussi à ce moment-là. Alors pas peut-être la première fois, parce que tout à l'heure, il y avait eu effectivement les 1 500 € dont on avait parlé.
Et drôle de petit champion, on était payé.
Et drôle de petit champion. Mais c'est à ce moment-là que, pour vous-même, voilà, à travers votre talent, vous êtes rémunéré. Vous découvrez justement ce monde d'une manière un peu plus grande, et on parlera justement des anges de la télé-réalité juste après. Mais pendant cette transition, quelle a été cet état d'esprit, justement, une fierté aussi de pouvoir être rémunéré de son travail et de son talent?
Oui, déjà c'est une fierté. On peut commencer à voir un peu plus loin en se disant bon bah j'ai peut-être lâcher les boutiques pour une bonne raison, mais en même temps, quand on sort de The Voice, comme je le dis toujours, on est noyé dans une masse de talents. Tout le monde chante bien dans The Voice. Voilà, on est touché plus ou moins par tel et tel talent, mais il y a un truc un peu unanime, c'est que tout le monde sait chanter. C'est le principe. C'est pas comme la Star Academy ou d'autres émissions où on apprend à chanter au fur et à mesure. Là, c'est vraiment des gens qui sont plutôt confirmés. Et pour tirer son épingle du jeu, c'est compliqué. Donc, j'étais payé 100 balles pour aller chanter à la foire à la saucisse, pour aller chanter à droite à gauche, ce qui était sympa. Mais pas de quoi en vivre correctement, surtout quand on vit à Paris, hein. Je crois que on est tous bien placés pour le savoir. Et du coup, j'avais le cul un peu entre deux chaises. J'étais à la fois très heureux, mais à la fois très inquiet.
Ouais.
Voilà.
Et c'est vrai qu'Evelyne Dress, vous êtes une auteure à succès. C'est vrai que depuis quelques années, beaucoup de livres. Hein, vous écrivez notamment La Maison de Pétichet, hein, c'est aux éditions Plon. Et cette histoire remonte justement à vos 5 ans. Quand vous êtes foudroyé d'amour pour un jeune homme, il y a eu plein d'autres livres. Hein, vous pouvez en citer d'ailleurs quelques-uns des autres
livres. Les Tournesols de Jérusalem, Le Rendez-vous de Rangoon, Les Chemins de Garveline. Je cite mes livres d'auteurs, d'écrivains voyageurs.
Et c'est vrai qu'il y a un point commun avec tous ces livres aussi, c'est que il y a toujours une part de vous dans vos livres.
Oui, tout
toujours.
À fait. Pour une simple raison, c'est que lorsque j'ai l'idée d'un roman, je connais le début et la fin de mon histoire. Entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Mmh. Alors, je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi.
Ah ouais.
Alors, forcément...
Ouais.
Leur vie et la mienne se...
C'est vraiment à lire les livres d'Evelyne Dress, hein, pour les auditeurs. Si vous êtes là dans les embouteillages, en train d'écouter Espace FM, justement, achetez, dès que vous rentrez, vous commandez un livre d'Evelyne Dress, parce que c'est vrai qu'ils sont tous passionnants les uns que les autres. Moi, je les ai tous lus, parce que ça fait assez longtemps qu'on se connaît, et ils sont vraiment passionnants, mais vraiment une part de vous à chaque fois, ça on le remarque.
Oui, tout à fait. J'aime bien me livrer à travers les personnages que j'invente. Parce qu'en même temps, c'est pas vraiment moi, mais c'est un peu moi quand même.
Bah voilà,
c'est génial.
Et c'est vrai qu'Alban Bartoli, la production de l'émission Les Anges de la télé-réalité,
on passe vraiment du coq à l'âne.
Ah oui,
désolé,
oui.
On parle de voyage, d'un truc un peu qui nous fait voyager, un peu poétique.
Et j'adore aussi Les Anges de la réalité.
Ah, bon, de la télé-réalité.
Bah ouais, non mais je regarde ça aussi.
En tout cas, c'est sur Énergie 12 et à ce moment-là aussi, c'est pour ça que j'ai précisé qu'on parlera des anges juste après, parce que c'était pendant cette période de vos 6 mois où on vous contacte sur Facebook. C'est vrai qu'au début d'ailleurs vous prêtez même pas attention, vous pensez que c'est c'est une blague, enfin, ouais, pas sérieux.
En sortant de The Voice, on a beaucoup de messages comme ça qui viennent. Et on me propose le casting des Anges de la Téléréalité.
Et vous décidez d'y participer.
Ouais, après plusieurs relances.
Hein, ouais.
Parce que vraiment, pour moi, je le regardais vraiment avec beaucoup de second degré et je m'étais dit que j'avais pas du tout ma place dans ce genre de programme. Et, bah, quand on est payé 100 balles à la foire à la saucisse et qu'au bout d'un moment, il faut remplir le frigo, on se dit, on va aller au rendez-vous, voir ce qui va se passer. Et en fait, j'ai eu un super feeling avec le directeur de casting. Vraiment un coup de cœur mutuel, ça a été super. Je lui ai imposé mes trucs en disant, voilà, moi, si j'y vais en tant que chanteur, puisque je savais qu'il y avait des chanteurs dans cette émission et que chacun a son projet professionnel, etc.
Il y avait Nabila. Enfin, c'est exactement, pas une chanteuse, oui, Nabila,
notamment
Thomas.
Nabila avec ce halo et son shampoing.
Maud Archer,
ça a été exactement
ça, cette année. Hein.
Ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'y participer et je le regrette absolument pas parce que
ça a été une visibilité aussi
énorme.
Hein, les anges, hein.
Beaucoup plus que The Voice.
Ouais.
Beaucoup plus que The Voice parce qu'on est dans le.
Il y a de la récurrence aussi sur la chaîne. Hein,
on a été diffusé pendant je sais pas 4-5 mois, 6 fois par jour du lundi mardi jusqu'à dimanche. Enfin, tout le temps. Il y avait des émissions consacrées aux anges, notamment celle de Morandini. Notamment le mag de Mathieu Delormeau, plus les épisodes de la veille, plus les épisodes du jour. Enfin, ça a été une grosse médiatisation,
grosse visibilité qui a permis aussi avoir des projets de chansons qui étaient quand même
complètement. Bah, grâce aux anges, ils m'ont fait jouer dans une commune musicale à Las Vegas. Mmh. J'ai enregistré mon premier titre, j'ai réussi à enregistrer un album. Le téléphone a beaucoup sonné, des galas plus importants, des cachets beaucoup plus importants. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre de la musique et à être intermittent du spectacle aussi, pouvoir cumuler tous les cachets qu'on doit avoir quand on veut être intermittent. Et voilà, j'ai démarré comme ça, vraiment ma vie professionnelle dans le spectacle. Ouais. Grâce aux anges et pas grâce à The Voice. C'est ça qui est.
On aurait pu croire le contraire.
Moi, j'ai adoré cette expérience parce qu'on était deux chanteurs, une fille et un mec. On a été très vite identifiés et ils ont tenu leur promesse.
Et ben voilà.
Ils m'ont surtout accompagné très, très longtemps après.
Allez, quant à nous, on va revenir dans un instant sur Espace FM pour la suite de C'est ton parcours avec nos invités Alban Bartoli et Evelyne Dress.
Cette émission vous est offerte par le cabinet Myriam. Plus de renseignements, 01 47 04 59 59 ou le 06 32 22 37 01.
Déteinté, tout le monde sera déteinté samedi 4 février 2023. Jackoot number one à l'espace Chevreul de Nanterre. Ils reviennent en force pour un méchant concert live avec un grand hommage à Michael Benjamin. À l'espace Chevreul de Nanterre, 97 109 avenue de la Liberté à Nanterre. Animation Giga Mirac, Tiaka, Enimix et le DJ Flow. Achetez vos tickets chez Bizouk, Fnac, Carrefour, Leclerc et dans tous les points de vente spécialisés. Infoline 06 15 15 48 85.
Magic Love Voyage, c'est le numéro 1 des billets d'avion sur les Antilles et bien d'autres destinations depuis 28 ans. Magic Love Voyage est la seule agence en France à vous proposer des paiements de 3 à 20 mois. Avec Magic Love Voyage, c'est 2 valises de 23 kilos, soit 46 kilos en soute par personne. Avec Magic Love Voyage, partez dès demain et payez en plusieurs mois à votre convenance. Et c'est vous qui décidez. Alors n'hésitez plus. Magic Love Voyage, 01 48 56 2000. 01 48 56 2000. Voyagez maintenant et payez après. Magic Love Voyage.
Attention, connaissez-vous le Guest Live? Le Guest Live ouvert vendredi, samedi et dimanche. Retenez le programme. Le vendredi soir, c'est Zouk Compa. Bouillade, ambiance tropicale, gratuit pour tous avant minuit et demi, puis 10€ toute la nuit. Le samedi soir, c'est Caribbean Night avec les meilleurs DJ de la capitale, gratuit pour tous avant minuit et demi, puis 10€ toute la nuit. Le dimanche, en mode Guest Live Compa, de 18h à 2h du matin avec les DJ Will et Junior. Gratuit pour tous avant 19h30. Le Guest Live, essayez, c'est l'adopter.
Mon Dieu, foutement fatigué. Mon rapport est à l'avion, ça fait me patienter. Mais c'est 8h30 de vol. Actuellement, 2h à attendre en valise. À respirer, actuellement, que les mains arrivent là. Mon Dieu, était là, qu'attendre là. Faites pour m'aider l'autolocation. Nous en live. Bonjour. Ça fait un moment, vous m'attendez? Mais non, c'est l'avion qui a fait du retard. Je pense que la voiture de location est déjà prête. Tout est prêt. Mon Dieu. Je parlais de ça, disais ça. Vous êtes bien, Alwego. Maman, rapide, qu'on dynamite. Mais oui, efficace, Alwego. Alwego. Vous êtes mérité. En pub au 0-801-101-101. Disponible pour Guadeloupe, Martinique. En Ouai.
Bonjour, je suis Rosemarie Farugia, président directeur général de l'agence Billet Discount. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis à 13h30 et le dimanche à 11h30 avec Justin Lafilo. Le samedi soir, dans l'émission de Nico, Tam Tam Maloya, pour partager les bons plans et les promos de Billet Discount, billets d'avion pas chers sur les Antilles et l'océan Indien.
Conditions et détails de l'offre sur notre site internet.
Attention, événement. Du zouk et encore du zouk. Made in Music en concert. La machine à danser sera en concert à la mythique salle de la Cigale à Paris. Le samedi 11 février 2023 à 20h. Made in Music en concert. Avec en invité, Michel Sadi, Daniel René Corail, Suzy Trébault et un monument du zouk, Frédéric Caracas. Concert proposé par GC Productions, Air Caraïbes et Alwego. Made in Music en concert à la Cigale. Billets en vente sur Bizouk et Fnac.com.
Monsieur, faites sortir madame. Madame, faites sortir monsieur. Attention, tous les week-ends, je vous amène au Délice. Le Délice, ouvert jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Retenez le programme. Le jeudi soir, les afters de 19h à 2h du matin. Le vendredi soir, le Délice vous attend à partir de 20h. Et attention, samedi au souhait, nous dansons sur toutes les nouveautés et gros souvenirs. Le dimanche, le midi minuit, Zotza Connette. Le Délice ouvert jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On fait passer le message.
Samedi 28 janvier 2023, AD Music, Comparibéan Music et GT Garage présentent l'événement La Compagouillade Party, édition White, avec 5 clans, Nick Henson Prud'homme. Et pour la première fois à Paris, le groupe Cash en live. La Compagouillade Party à l'espace Chevreuil de Nanterre, 97 109 Avenue de la Liberté. Animation DJ Flow, pré-vente sur bizouk.com. Présence obligatoire. Un billet d'avion offert par billet discount. Infoline 06 99 81 92 79. 01 30 72 15 14.
Cette émission vous est offerte par le cabinet Myriam. Plus de renseignements, 01 47 04 59 59 ou le 06 32 22 37 01.
C'est ton parcours. Présenté par Myriam Benjenad et Nicolas Nadeau, c'est tous les derniers lundis du mois de 18h30 à 20h sur Espace FM.
Je peux te résumer une phrase. De retour dans C'est ton parcours sur Espace FM. Merci d'être à notre écoute. On est avec nos invités Alban Bartoli, Evelyne Dress, justement pour évoquer leur merveilleux parcours. Et Alban avait quelque chose à rajouter.
Oui, non, c'est pas très positif, mais je viens d'apprendre il y a juste avant cette émission que John Courteau nous avait quitté. C'est quelqu'un qui me suit depuis 10 ans. Ah. Et il m'a souhaité une bonne année sur ce genre de groupe de fans, tu sais, avec qui j'échange de temps en temps. Il m'a souhaité une bonne année hier. Je lui ai répondu et il est décédé ce matin d'une crise cardiaque. Et je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a finalement un peu compté dans mon parcours, parce que c'est important d'avoir ce genre de personne à ses côtés qui se déplace, qu'on connaît pas vraiment finalement parce qu'on n'est pas amis avec eux, on sait pas, ce sont pas nos amis, mais ce sont des gens qui ont lu notre livre, qui ont écouté notre album,
quoi de mieux d'en parler,
qui a toujours partagé des choses
en plus,
et qui a fait partie de mon parcours, et je lui rends hommage parce que c'est très triste ce qui est arrivé, et ça m'a beaucoup choqué, donc je pense à lui.
Voilà. Maintenant, justement, on va aussi parler de votre vie d'aujourd'hui. Evelyne Dress, on vous retrouve déjà toujours en librairie avec votre livre 5 jours de la vie d'une femme. C'est aux éditions Glyph, sorti en début d'année. Histoire assez drôle, justement. Une femme de 70 ans. Racontez-vous, vous l'expliquez tellement mieux.
Oui, 70 ans, qui s'apprête à passer Noël avec ses enfants. Évidemment, quand on a 70 ans, on a des enfants qui sont grands et qui ont eux-mêmes fait des enfants. Oui, mais enfin, en l'occurrence, elle a aussi des petits-enfants. Ouais. Et donc, elle leur a préparé une grosse dinde au marron. Et la veille de Noël, les enfants lui annoncent qu'ils iront fêter Noël avec des copains à la montagne.
Oh là là,
et elle va se retrouver en tête-à-tête avec la dinde au marron. Alors là, ce n'est pas possible. Elle jette quelques fringues dans une valise et elle prend un billet d'avion pour Biarritz.
Ah ben voilà.
Voilà. Et elle va se payer un hôtel de luxe parce qu'elle a pas décidé d'être la plus riche du cimetière. Elle n'a pas les moyens de sa suite à l'hôtel du palais à Biarritz, un palais véritablement. Mais en tout cas, elle se l'offre et elle ne devait rester qu'une nuit finalement, de fil en aiguille. Elle reste 5 jours et il y a peut-être un 6e qui...
Et c'est pour ça que ça s'appelle 5 jours de la vie
d'une femme
aux éditions Glyph, avec prochainement aussi la sortie d'un nouveau livre.
Oui, ça fera juste un an après la sortie 5 jours de la vie d'une femme. Le 24 février sort Je veux peindre et aimer. Et
une part de vous encore.
Une part de
je
moi,
veux peindre.
Oui,
bah
oui. Oui, oui, bien sûr, parce que je n'avais jamais parler de la peinture et comme l'a fait Henry Miller, qui est un écrivain qu'on connaît, mondialement connu, qui a peint également et qui a écrit un livre qui s'appelle « Peindre, c'est aimer à nouveau ».
Ouais.
Et donc, moi, je me disais, c'est un peu bête que je n'ai pas raconté mon expérience de peintre. Et là, bah, ça y est, c'est fait. Je suis très, très heureuse que mon héroïne soit peintre.
Mais un livre par an, c'est plutôt pas mal quand même.
Oui, c'est bien. Je sais pas si je vais tenir.
Ouais.
Oui, je sais pas si je vais tenir, mais
bon, bah, ça fait quand même déjà longtemps que ça tient.
Oui, le prochain est déjà en route en tout cas.
Ah, ouais. Bon, pour 2020, encore là après.
Oui, pour 2024. 24 ou 25. Oui, parce que c'est un gros livre d'écrivain voyageur. Je ne vous dirai pas où ça se passe, mais ça va très 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 loin. Où je suis déjà allée en repérage.
Une part donc, de vous, encore une fois. Dans
bah
vos
oui,
livres.
Bien sûr.
Je peux venir.
Oui. Non.
Vous, Alban.
Alors, Alban,
ouais.
C'est pas que je ne veuille pas ouais. de vous,
ouais.
mais c'est que je voyage toujours toute seule.
C'est vrai.
Car, mais bien sûr, parce que on est différent quand on est seul ou accompagné.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, voilà.
Et les gens ne vous approchent pas de la même manière non
ouais, c'est
plus.
Certain.
Voilà.
Alban Bartoli, quant à vous, on vous retrouve toujours avec votre autobiographie passionnante. Je l'ai lu, je vous avais reçu aussi dans une autre émission, ça s'appelle La Mélodie du Bonhomme, hein, le témoignage d'un enfant de la télé, c'était sorti en 2020. Et c'est vrai qu'en lisant justement ce livre, on découvre que vous avez eu d'ailleurs plusieurs vies. On l'a d'ailleurs vu hein, à travers ce parcours entre la boutique de mode notamment et la chanson. Vous livrez aussi sur un parcours personnel, professionnel, télévisuel, une confidence criante de sincérité, pleine d'humour aussi, d'amour, de bienveillance, d'infos aussi un peu croustillantes, faut le dire.
Oui,
dans ce livre.
Oui, parce que les gens ont envie de savoir ce qui se passe.
Notamment une peut-être à raconter, une des infos
qui serait dedans,
peut donner envie de lire le livre.
Alors là, comme ça, je sais pas.
La Starac, c'est dans le livre.
Oui, la Starac, c'est dans le livre, ouais. Évidemment. Je raconte une journée type dans les Anges, par exemple.
Ouais.
Les gens ne savent pas qu'il y a autant de gens autour de nous, qu'il n'y a pas de caméra dans les murs et qu'on est aussi proche des gens de l'équipe technique que des gens qui sont dans la maison avec nous, voire plus proche. Voilà, comment ça se passe pour les castings. Il y a plein de. Je parle aussi de l'homoparentalité, dans laquelle j'ai vécu puisque ma mère est avec une femme. Comment j'ai vécu aussi mon coming out. Public, privé, comment ma mère a vécu son coming out familial, parce que c'est toujours, je pense que c'est plus difficile quand t'es parent d'annoncer ton homosexualité à un enfant que l'inverse. Donc voilà, il y a plein de choses, c'est un
plein
peu
de choses à découvrir sur Alban Bartoli, notamment, ça s'appelle La Mélodie du Bonhomme et on le retrouve
sur Amazon
exclusivement.
Tout à fait, oui, oui.
Et Evelyne, dans toutes les bonnes librairies.
Bah oui, à Fnac.
C'est pas vrai.
Hein?
Fnac, partout, quoi.
Partout, oui, 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 oui.
Et en séance de dédicace aussi?
Et oui, je recommence. Bah, déjà, le 7 janvier, je suis à Coulommiers. Alors, pas avec le nouveau, bien entendu, puisqu'il sera pas encore sorti, mais avec 5 jours de la vie d'une femme. Et puis après, je serai à l'autre festival. C'est en Avignon.
Ouais.
Le 3 et février. Voilà. Je recommence très fort.
En tout
les
cas,
dédicaces.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir suivis avec ce beau parcours, ces belles actualités, Grégory. Hein.
Merci beaucoup à vous et puis bonne continuation. Et puis au plaisir de vous retrouver ici quand vous voulez. La porte
merci.
Comme toujours est
merci.
Merci et
merci
à très vite pour un nouveau numéro de C'est ton parcours avec de nouveaux invités. On va parler de plein de choses encore.
Merci à tous et bonne continuation. Et n'oubliez pas que les amis, que si vous avez besoin de pouvoir poser vos questions à Myriam, elle est toujours présente sur son cabinet. Son numéro de téléphone vous est donné directement par l'équipe d'Espace FM. Vous pouvez nous appeler au standard, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi la retrouver peut-être ce vendredi de 10h à 11h pour pouvoir justement essayer d'en savoir un petit peu plus. Ou sinon dimanche de 12h à 13h. Et on va laisser tout à l'heure la continuité de l'émission avec Mickaël qui revient avec toute son équipe. À tout à l'heure.
Espace FM, il est 20h.